Alors, malgré tout, on ne peut pas prédire le comportement, on peut pas, on est ouvert à toutes sortes de, d'expériences des acteurs. Comment on arrive à, quand même à produire une sociologie? Alors, moi, je maintiens l'idée qu'on peut modéliser dans le pragmatisme. Bon, ça me, c'est dommage que Joël ne soit pas là, parce que ça les met en rage. Moi, j'essaie de dire qu'il y a une épistémologie, pragmatique, c'est-à-dire qu'on est quand même, on fait quand même une science sociale. Ou alors, faut faire attention, quoi. C'est-à-dire que si on sort complètement, il faudra assumer qu'on est, on nous retirera les budgets. Il enfin, n'y a pas que ça comme argument. Mais... Donc, quand même, essayons de modéliser. Donc, première chose, et vous l'avez dit tout à l'heure, donc ça, je suis content, parce que ça me permet d'aller plus vite. On doit prendre en compte le conséquentialisme non borné de type 2, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur une causalité simple, ça va avec tout ce qui précède, hein. Et de fait, on va utiliser le pragmatisme pour sa capacité précisément à saisir les conséquences en train de se construire. Et finalement, chez John Dewey, que ce soit dans la théorie de l'enquête, ou dans Le public et ses problèmes, ou d'autres textes fondamentaux sur l'expérience, même l'expérience artistique, c'est bien cette idée que les choses se produisent dans le processus. Et que du coup, le raisonnement logique doit accompagner ce processus, ce qui renvoie finalement à une notion qu'on avait chez... bon, je passe là-dessus. Hein. Chez Peirce, qui est l'abduction. Dans un bon raisonnement adapté au réel, des choses surgissent qui n'étaient pas prévues. Alors, ça peut être lié à vos artefacts d'enquête. Je pense toujours au petit robot sur Mars... qui peut se casser une patte à tout moment, et donc vous avez un problème dans le problème, et voilà, comment vous le faites circuler, et qu'est-ce qu'il vous renvoie comme données, est-ce que c'est isomorphe, est-ce que c'est exactement celle que vous vouliez, et donc l'espèce de processus de découverte, en fait, qui toujours tâtonne, toujours, et réintroduit des questions là où on pensait qu'on avait des axiomes inviolables. Ça ne plaît pas trop aux économistes mathématiques, ça, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'en gros, avec leur modèle, ils sont à côté du truc. C'est ce qu'ils appellent des externalités, en fait, qu'on remet en permanence. Et donc, en sociologie pragmatique, on est amené à avoir... Bon, je suis désolé, j'ai remis les trucs en anglais, parce que ces temps-ci, c'est plus vers là que vous jouez, mais c'est assez facile, voilà. On est dans des logiques non monotones, c'est-à-dire non monotones au sens des logiciens, hein, c'est-à-dire où les prémices et les règles sont redéfinies chemin faisant. Un système monotone, c'est un système où vous définissez les règles, vous introduisez les faits, vous examinez les faits à la lumière des règles et vous tirez des conclusions. Normalement, ça fait un système expert qui vous dit à peu près l'heure qu'il est, ou tout comme ça. Et pas beaucoup plus loin. Dans le non monotone, vous pouvez revoir les connaissances sur un faisant. Et c'est bien ça qu'on a, nous. Alors, je ne refais pas le topo sur ce modèle, mais c'était, je ne sais pas qui l'a, le connaît pas ou qui l'a vu. Pendant très longtemps, on a essayé de modéliser les choses sous cette forme. Ça a donné un bouquin qui s'appelle Balistique Sociologique. L'idée, c'est que justement les processus de controverse sont pas linéaires, rebondissent, tu l'as dit tout à l'heure, spontanément, et passent par des phases où le cadrage du problème change de nature. Évidemment, on pourrait dire politisation, finalement, dépolitisation, parce que j'ai des collègues anglais qui adorent ça, dépolitisation, politisation, donc ils sont post-Foucault, ils sont adorables, d'ailleurs, ils sont en Essex, à l'université, ils travaillent sur notamment l'extension de l'aéroport de l'Issou. Il s'appelle Stephen Briggs, David Howarth, et c'est des disciples de Laclos et compagnie. Et effectivement, pour eux, c'est un processus, les controverses, c'est un processus de tentative de politiser un problème. Par exemple, les riverains qui disent non. Et on essaye de discuter avec eux, mais enfin, quand même. Et puis, bon, ils politisent, et puis du coup, le problème est redéfini. Et après, il y a toujours des gus pour venir vous le dépolitiser à nouveau, dire bon, voilà, on a fait des nouvelles normes de bruit sur les aéroports. On a tenu compte des émissions de CO2 des avions, et donc vous allez dire oui, Notre-Dame des Landes. Donc c'est, ce processus, c'est, on essaie de le décrire en étant précis sur trois choses. Les moments de basculement, quand ça passe de l'émergence à la controverse publique, et surtout les interactions,
les évolutions,
voilà, avec les milieux. C'est-à-dire qu'est-ce qui surgit et comment ça marche. Par exemple, vous avez un problème de gaz de schiste. On a beaucoup travaillé sur le gaz de schiste. Tout à coup, il y a des brasseurs de bière qui débarquent dans la controverse. On va dire, c'est du latour, on fait rentrer tout le monde. Non, on ne fait pas rentrer tout le monde, parce que le brasseur de bière, on a besoin d'eau. Vous n'allez pas nous saloper notre eau. Les nomades du désert en Algérie, on peut dire comme exemple de démocratie, c'est magnifique. Il y a des controverses. Hein. J'y suis allé en 2014 avec Soraya Boudia. Bon, vous avez trois pouvoirs, hein, l'armée, l'industrie qui est beaucoup, aujourd'hui d'ailleurs, entre les mains de la Chine en particulier. Et puis l'islamisme qui contrôle la rue, truc. Vous n'avez pas une femme non voilée, vous n'avez pas une cigarette ou une bouteille de pinard aux terrasses de bars, etc. Et les projets culturels, c'est essentiellement des mosquées. Mais malgré tout, sur la question des gaz de schiste, il y a eu émergence de contestation. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient eu l'idée, la Sonatrach, qui est la grande société producteur de gaz, d'aller voir s'ils ne pouvaient pas commencer à faire des scénarios sur les réserves qui sont en dessous des nappes conventionnelles, effectivement, dans la Roche-Mer. Et donc, ils ont commencé à faire des explorations. Les nomades sont arrivés en disant, nous, on a besoin de l'eau, vous ne touchez pas à ça. Donc, c'est génial, parce qu'on voit bien, la rébellion des milieux, c'est très concret. Et donc, ça fait rebondir. Et donc, cet aller-retour continu, ça oblige, d'une part, à avoir les séries publiques, regarder ce qui se passe au Parlement, dans les médias, dans les comités scientifiques, tout. Et évidemment, ce qui se passe aussi sur les terrains les plus divers. Il ne faut pas comprendre la controverse des OGM si vous, à un moment donné, vous n'allez pas dans un champ, aller voir des agriculteurs, que ce soit des pros, des cons. Donc, ça veut dire quand même un cahier des charges assez lourd. Sachant que tout ça peut rebondir, donc c'est la troisième dimension, de manière imprévisible, on ne ferme jamais les controverses. Donc, j'ai fait la démonstration en plusieurs fois sur l'amiante, c'est pas fini. Et donc, ne négligeons pas des choses dont on pense que ça appartient au passé, parce qu'effectivement, on peut tout le temps avoir de nouveaux rebonds. Et donc, notre sociologie doit s'outiller d'avance, de cette manière, pour préparer les rebondissements. Et ça va avec l'argument de l'indétermination. Si on sait comment s'arrête la controverse, ben finalement, on peut prédire. On retombe sur Slovic et compagnie, c'est intéressant. Alors, ça, c'est les deux versions qu'on fait travailler, la version littéraire. La plus sympa, évidemment, c'est Gaston. Vous essayez de saisir la balle au bon en intervenant dans une controverse, et ça vous échappe, et évidemment, vous avez une trajectoire qui ressemble à rien, et parfois... Celui qui bénéficie de la trajectoire finale n'est pas celui qui était dans le jeu. Alors, je ne veux pas faire d'allusion politique particulière, mais par exemple, vous êtes dans une manifestation, et vous lisez actuellement les communiqués du Front National. C'est intéressant. Ça baigne pour vous. Ce gouvernement est en dessous de tout. Il ne respecte même pas les règles de la République. On ne peut pas interdire aux gens de manifester. Et la version, bon, qu'on essaye des mathématiciens avec des logiciels, bon, c'est foireux, enfin ça marche, mais je ne veux pas dire que ça ne marche pas, mais bon, on fait des modèles pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait bifurquer. Donc on a un logiciel, notamment Marlowe, qui est une intelligence artificielle, qui essaye de suivre les rebonds. Bon. Enfin, ça, c'est passionnant, mais en même temps, il faut avoir toujours la version littéraire, parce que sinon, on est incapable de faire des récits, de saisir un peu, de les scénographier autrement. Voilà, donc on arrive là-dessus, et j'ai presque fini. Aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on est tombé finalement, avec Josquin surtout, dans le bouquin, donc il y a un chapitre entier sur ce modèle général. Donc je me suis pris pour Luhmann, en fait, au milieu d'une nuit, je me suis réveillé, il me faut un système intégrant, tout ça. Sinon, j'y arrive pas. Comment décrire tous ces processus ? Alors finalement, la balistique, elle se retrouve, ça devient qu'un des moments du modèle, c'est-à-dire que c'est le moment où la cause, l'alerte, la controverse monte, où les acteurs cherchent à mobiliser, à faire émerger le problème public. Mais il y a besoin de 5 autres éléments qui sont importants. C'est comment se sont structurés les contre-discours. Parce que finalement, il y a un contre-discours qui existe. Par exemple, l'empowerment des citoyens. Il est aujourd'hui organisé au niveau mondial. Hein, on peut aller le chercher. La justice environnementale, le terme mondialiste, si vous voulez, la politique de l'écologie, etc. Et donc le contre-discours s'est organisé. Donc il a une certaine durée. Quoi. Il est stabilisé. Et là, vous pouvez faire du Boltanski, de la critique. Mais non, ça ne suffit pas, parce qu'il faut aussi regarder le discours dominant, comment il se structure aussi, de manière dialectique, avec des zones de transaction. Alors, pour l'instant, on l'a laissé dans le bouquin, on va virer, parce que, comme c'est très historique, vu l'économiste, surtout, dans 5 ans, plus personne n'en parlera le truc. Donc, on ne va quand même pas devenir créer l'obsolescence de nos propres trucs. C'est vide, en fait. C'est ce que, d'ailleurs, les chercheurs appellent des empty signifiers, des signifiants vides, en reprenant Lacan, c'est-à-dire des choses qui vont servir à tout le monde, développement durable, une économie... gouvernance participative, et on peut y mettre absolument ce qu'on veut, en fait. Et un discours dominant, en fait, va absorber une partie de la critique et va créer ces zones de transaction. Je montrerai juste un exemple tout à l'heure, dans lesquelles, effectivement, le compromis va durer ou pas. Pour certains, va marcher. Ça va créer aussi des jobs. Hein. On a eu récemment une communication là, dans le colloque sur l'émotion, sur le marché du consulting et de tous les gens qui viennent faire des offres de participation. Donc, ça marche. Ce qui est important, c'est de voir qu'un discours dominant qui n'aurait pas des appuis procéduraux, c'est-à-dire des dispositifs qui organisent, en fait, notamment la gestion des risques et leur évaluation, il ne tiendrait pas longtemps. Donc on ne peut pas dire c'est simplement le néolibéralisme et l'idéologie, c'est aussi tous les dispositifs qui ont une certaine autonomie. Parce qu'ils ne sont pas réductibles au discours de Milan, ils ont leur propre cohérence interne. Et d'ailleurs, on a plein de collègues, ce n'est pas une littérature qui me passionne, moi, mais c'est vrai qu'ils travaillent sur la régulation. Je pense par exemple à Brice Laurent, à De Mortin, pour quelques Français par exemple, sont vraiment sur comment on régule l'expertise, la manière dont on construit les définitions, les protocoles de concertation autour de ça, les commissions, la comitologie, enfin, voilà, tous les textes, les règlements, voilà, par exemple Rich. Voilà, c'est le carré là, qui est un peu kafkaïen dans son genre. Et vous voyez qu'en fait, ce qui est intéressant, ça va être en fait ça. Nous, ce qu'on va essayer de modéliser, c'est comment on passe de l'un à l'autre. Donc la sociologie, finalement, va s'intéresser aux épreuves par lesquelles... Alors, les deux niveaux d'en bas, ça renvoie au premier schéma tout à l'heure, c'est les milieux. Et il y a deux formes dans le continuum qui s'opposent. Le milieu qui est sous le contrôle d'une entité hégémonique, c'est-à-dire EDF dans sa gloire des années 70-80, qui construit la centrale du Blayais. C'est vrai que les oppositions ont existé, mais enfin, bon, c'est pas... Et EDF aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est pas du tout le même monde, parce que ça a glissé vers beaucoup plus d'interactions hétérogènes. Et l'hégémonie se défait, en fait. Et elle se défait par plein de choses. Hein. Par les pêcheurs qui disent, nos alevins, ils sortent complètement ébouillantés de votre truc, vous nous changez tout ça. Et EDF a dû changer les filtres du système de refroidissement, puisqu'il y a une prise d'eau, évidemment, en amont de la centrale, qui rejette l'eau à peu près, je crois que c'est 2 km plus loin. Et du coup, les alevins passaient à travers le truc, il ressortait complètement échaudé, si j'ose dire. Donc là, vous avez un impact. Il a fallu quand même 5 ans de lutte du syndicat des pêcheurs, en sachant qu'il y avait une thèse qui était sortie là-dessus, les pêcheurs de la Gironde, un métier en voie de disparition. Il y en avait plus de 30. Eh bien, c'est pas parce qu'ils étaient petits qu'ils n'ont pas réussi à renverser le rapport de force sur cette question-là. Ce qui veut dire que l'hégémonie, en fait, elle est travaillée par ces relations et elle est constamment à reconstruire dans le meilleur. Donc toutes ces relations, en fait, ça va nous permettre de comprendre les circulations des problèmes. Et en même temps, le pari, c'est de dire, ça tient encore quand même. C'est-à-dire qu'on peut être catastrophiste, nous aussi, comme tout le monde. Hein. Alors, Bonneuil a publié un bouquin, j'adore, il est complètement démoli dans le chapitre 3, c'est un peu tout match, alors que je servigne et machin, là. Comment tout peut s'effondrer? C'est ça le titre. Lisez ce bouquin si vous ne l'avez pas lu, parce que c'est en gros, demain, là, vous avez une coupure d'électricité à New York qui produit un truc à machin, etc. Ils exagèrent carrément le truc, mais c'est intéressant de voir la rhétorique en fait de cette idée que comme tout est devenu interdépendant et qu'on ne veut pas changer le système, on va forcément vers l'effondrement général. En réalité, à chaque fois, il y a des reprises, ça repart. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir penser en même temps les transformations critiques, et donc les crises, et en même temps la régulation. Puisque malgré tout, ça recircule et ça se réorganise. Et c'est en tout cas ce qu'on peut constater. Alors peut-être que les générations futures se mettent au courant de nous en disant ils y croyaient, ces crétins, en fait, non, ça s'est vraiment effondré, c'est possible. On ne va pas l'exclure. Et quand même, on voit bien qu'il y a toujours de la résilience dans les coins. Alors j'aime pas ce terme, hein, parce qu'il est trop galvaudé, mais on peut en discuter. Mais c'est là où je rejoins en particulier Tsing et d'autres, cette idée qu'en fait, et on rejoint De Certeau, Michel. Michel De Certeau, la créativité, l'invention du quotidien, c'est exactement ça. Dans les systèmes les plus carcéraux, à l'époque il avait quand même Foucault en devenir. D'ailleurs, Foucault s'est vachement inspiré de la controverse lui-même, hein, c'est assez compliqué. Il y a toujours des lignes de fuite, si je veux dire. Finalement, j'avais le projet de faire un travail sur une histoire longue de l'évasion. Toujours des mecs pour trouver des failles du système et se barrer. Ils n'ont jamais réussi à clore complètement la peuple. Sans aller jusqu'à creuser un tunnel de je ne sais pas combien de kilomètres comme le fou là, au Mexique. C'est vrai que, quand même, il y a une inventivité qui fait que ça échappe toujours. Et donc, cette circulation, pour nous, sont importantes, parce qu'elles nous permettent de vraiment penser, disons, avec une certaine froideur analytique, ce qui se produit dans ces relations, dans ces tensions. Apportant de choses extrêmement locales. Là, par exemple, c'est un départ de controverse à Montréal, saisi en 2014. Alors, je n'ai pas la suite. Simplement un Gus qui me dira, vous prenez présentement la photo, là, c'est vrai qu'on est vachement en résistance là, contre cette Como, ils ont le même racine, c'est des Como, comment ils appellent ça, Oui, les Comodins, c'est ça. Donc, c'est cette idée qu'il va y avoir un projet immobilier qui va venir bousiller le jardin. Le truc est une interstice typique, quoi. C'est rien, en fait. C'est vu par satellite. Ben oui, mais c'est là qu'une vie s'est organisée. Et du coup, à partir de ce point-là, on peut avoir une convergence qui se fait de lutte urbaine. Et donc, avec ce modèle, on ouvre... voilà. Alors, je finis. 5 minutes, c'est bon. Hein.
Oui.
Tout ça nous amène à revoir pas mal de concepts. Alors là, j'ai choisi celui-là. J'aurais pu prendre les questions de scénarisation du futur ou d'autres aspects sur la perception, justement, dans le milieu. Sur la question, justement, de... Là, qu'est-ce qui fait confiance? Comment les acteurs construisent la confiance? Donc, là, je me suis amusé à présenter ça sous forme d'un gradient qui marche assez bien. On l'a testé sur les gaz de schiste et sur d'autres sujets. Entre, bon, le moment où vous n'avez rien à discuter, c'est l'indifférence totale, vous ne voyez pas, même pas sur quoi vous avez prise, le sujet vous laisse froid. Et le cynisme, qui est la version que j'aime bien aussi, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas comprendre la crise de la représentation politique si on n'a pas un propos, enfin, une clarification de ce que c'est que le cynisme, quoi. C'est-à-dire cette possibilité quand même d'agir dans l'espace public en étant totalement détaché et sans tenir compte de la critique. C'est un peu ce qu'on est en train d'observer. Et entre les deux, il y a cette gradation qui est très intéressante parce qu'on la voit assez bien dans les processus, notamment de concernement des habitants ou des gens qui étaient dans un premier temps pas invités au débat. Ça peut être une question technique qui va susciter une contre-expertise, une autre méthodologie, qui va aller chercher une étude qui dit, ben, en fait, c'est plus compliqué que ça. Votre médicament, il a tel effet secondaire. Bon, par exemple, les associations de malades le font assez, aujourd'hui, ils ne sont pas des... Donc, vous rentrez dans une controverse qui reste, finalement, sur une critique technique. Un bon indicateur, c'est comme pour la biodiversité, de santé des démocraties, c'est est-ce que la critique technique peut s'énoncer sans déjà provoquer des haussements d'épaules? Ben, il va encore nous emmerder, celui-là. Ben, il faut dire que chez EDF, aujourd'hui, la tension est telle que les gens passent de 2 au 7 à l'intérieur d'EDF. Ils sont complètement désespérés sur l'avenir du système. Parce qu'il n'y a plus d'espace, en fait, pour déployer une critique. Parce que si vous déployez une critique, vous donnez des arguments aux ennemis du nucléaire, et donc c'est impossible. Donc la critique technique, le fait qu'elle puisse se déployer, c'est un signal intéressant. Il ne faut pas la négliger comme, ouais, bon, c'est un détail. Procédural, là ça se tend un peu. C'est-à-dire qu'en fait la question c'est comment on a consulté, comment on a organisé la discussion. Vous avez un niveau au-dessus. Vous n'allez pas chamailler trop sur les faits, les méthodes, etc. Vous allez dire, mais enfin quand même, vous auriez pu nous donner l'information avant.
On nous l'annonce.
Ouais, c'est le truc classique. Et puis beaucoup, l'organisation du débat, etc. Ensuite, il y a une critique qui va se tendre un peu, c'est qu'on va rajouter de l'accusation. Alors, je soupçonne Bolkonski, mais ça c'est mon propre compte à régler.
C'est ton histoire.
C'est de mêler un peu tout ça et de voir de l'accusation partout. Enfin, bon, je me rappelle toujours les débats sur les économies de la grandeur, son fameux modèle, là, où on faisait une critique technique et on était déjà dans l'accusation. Non, c'est des modalités différentes. Accuser, ça veut dire que vous allez pointer la responsabilité d'une entité qui a commis une faute ou a commis un acte répréhensible au nom de... Et on retrouve le fameux naming, claiming, blaming, hein, qui est un classique de la sociologie des mobilisations et des disputes. Ensuite, vous montez encore d'un cran, c'est un peu différent, où vous diagnostiquez un système qui produit de l'injustice. Il n'y a pas forcément l'entité responsable tout de suite, c'est pas possible. Vous politisez, en fait. Finalement, les gens de Monsanto, ils font leur boulot, quoi. C'est le système capitaliste qui est responsable. Après, vous avez une critique radicale du système, justement. Alors là, il faut que je change, parce que suite à la controverse avec les Anglais, le fait qu'il y ait l'idée d'alternative système, ça les a choqués. Soit il y a un système, mais ça ne peut pas être un système qui est alternatif. Alors je ne sais pas, parce que c'est effectivement des pratiques alternatives. Est-ce que ça fait système? Alors moi, j'ai sorti la biodynamie comme exemple, souvent, puisque j'étais parti de là. C'est une doctrine, il y a tout un système, et les acteurs peuvent le poser, comme on peut poser, je ne sais pas, une médecine parallèle, en face de la médecine officielle. Mais du coup, on passe d'un système à l'autre. Donc, c'est ce que disent d'ailleurs certains commentateurs, dire avec la CGT, c'est le retour du communisme et du totalitarisme. On passe d'un système à l'autre. Là, l'idée, c'est de travailler, de regarder comment la critique radicale, en fait, va faire émerger ou pas un contre-modèle, donc un contre-discours organisé. Et puis la septième forme, c'est celle qui n'a pas d'alternative, donc qu'il faut prendre en compte. C'est celle qui est extrêmement pessimiste et qui fait qu'aujourd'hui, on a cette surproduction de catastrophisme et de prophéties de malheur sur nos tables. Bon, je ne vais pas toutes les sortir, mais quand on regarde les documents des grands conflits sur lesquels on travaille, là, c'est, ben, vous avez reconnu Notre-Dame-des-Landes, toutes ces modalités sont à l'œuvre. Là, en l'occurrence, dans la conclusion, vous avez un double critique, qui est celle critique technique et une critique procédurale, qui va être utilisée par les opposants, évidemment, pour dire, voyez, il ne faut pas faire cet aéroport. En fait, il dit simplement qu'il est surdimensionné. Et que la manière dont on a communiqué sur les données du problème a été foireuse. Sur les gaz de schiste, vous voyez que là, c'est carrément la critique radicale du système qui s'installe. Bon. Là, c'est... Là, c'est magnifique. C'est, et on a... Vous voyez, on peut redéployer les modalités que j'ai décrites sur les arguments utilisés contre les gaz de schiste. Ça marche assez bien. Il me reste une minute. Oui, mais j'ai presque fini. Donc, tout ça pour revenir à la rébellion des milieux. J'avais essayé de modéliser ça à un moment donné, ça avait mis en colère nos amis participationnistes. Parce que, moi, je disais que vous organisez, en fait, des publics et vous allez les enfermer dans une boîte. Alors que ce qui est intéressant, c'est deux publics que vous oubliez, c'est ceux qui restent extérieurs, les muets, ou le public qui reste fantôme. Et les émergents, c'est-à-dire ceux qui viennent vous dire votre débat c'est foireux, on ne veut pas du site d'enfouissement des déchets radioactifs, et qui viennent balancer des tomates pendant la discussion que les gens voulaient policer autour de l'expertise, de savoir si ou non on allait mettre les déchets. Ou ici, évidemment, qui est le syndrome français actuel, de Notre-Dame-des-Landes, qui est très intéressant, puisqu'on voit bien que là, le référendum, c'est revenir, ramener à une consultation, en fait, quelque chose qui, de toute façon, ne va pas s'arrêter à la consultation, que ce soit oui ou non, dimanche prochain. Bon, pareil, comme ça, je passe vite, là, c'est fini. Mais ça avait des conséquences, je pensais que ça vous intéressait, puisque c'est une idée d'acceptabilité sociale, moi, elle me travaille, j'ai un rapport de détestation absolue pour ce concept, bon, c'est normal. C'est pour ça que j'ai créé la notion d'acceptabilité. En réponse d'ailleurs à des activistes qui m'accusaient de faire le jeu de l'acceptabilité pour l'endroit quand je travaillais sur les déchets radioactifs. J'ai dit non, vous êtes en train de dire que je suis un acceptologue, c'est-à-dire que mon boulot c'est de faire accepter les déchets radioactifs, mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait en sociologie. Et donc, ça nous a amené à réfléchir, surtout avec Jean-Michel Fourniaud, à la manière dont les milieux académiques et les chercheurs se situent face à des publics dans des relations pour sortir aussi du mot d'ordre trop facile de recherche participative ou de science citoyenne, qui nous paraissent pas forcément dangereux. On va les soutenir, bien sûr, à un premier niveau de querelle, mais finalement, ne pas aider à clarifier dans quel type de relation on entre avec des publics, des demandeurs, la demande sociale, selon l'expression consacrée. Et du coup, on a une pluralité de figures et c'est intéressant parce que par rapport à vous, là, vous êtes à la limite proche du chercheur embarqué au service de savoir alternatif. En même temps, vous pouvez devenir lanceur d'alerte.
Je crois que c'est la pluralité des postures. Ouais.
Hacker, c'est déjà plus dur parce qu'il faut vraiment entrer dans les systèmes. Animateur, c'est un risque. Porteur de technosciences, là, c'est carrément le méchant qui va effectivement dire qu'il faut faire. C'est Pierre Benoît-Joly.
Quel abus,
non, parce que c'est une querelle que j'ai avec Marco qui est présent, donc c'était une allusion. Ils ont réussi à recréer un programme au ministère, ils n'ont plus de sous pour la recherche participative, ils ont fermé le programme Repère, par contre, un truc qui s'appelle Risque OGM. Donc c'est un nouveau système, est présidé par Pierre-Benoît Joly, etc., pour sauver le HCB qui est en pleine crise actuellement. Je ne sais pas si vous avez vu, le Haut Conseil des biotechnologies, donc c'est un nouveau rebondissement dans l'histoire du OGM. Parce que les anti-OGM ont dit la mutagenèse, c'est un problème. Et ils ont dit non, ça n'a rien à voir avec les. C'est plus des OGM, c'est autre chose. Donc la bagarre, c'est de savoir est-ce que c'est des OGM ou pas des OGM. Non, c'est plus de la transgenèse, effectivement, mais c'est la nouvelle stratégie des multinationales, de l'agro, etc., pour arriver à faire de la sélection industrielle de plantes et donc à modifier la génétique malgré tout. Et donc là, il y a une bagarre, et donc il y a eu une démission suite à la première démission de Berthaud. Qui a dit j'ai pas pu placer mon avis minoritaire dans la procédure, donc voilà, c'est la critique procédurale. Ça a basculé et c'est devenu une affaire portée notamment par le site InfoGM en disant il faut dénoncer ce truc-là, c'est le nouveau Eldorado. Et donc, ces positions sont importantes parce que moi, effectivement, j'essaye de me situer plutôt en bas, hein, bien sûr, mais c'est pas facile à tenir si on n'a pas des techniques d'analyse qui résistent. Et voilà, je finis sur la green economy, une réalisation réelle, hein, c'est une photo authentique, authentifiée d'ailleurs, le photographe c'est Frédéric Marty, vous pouvez le consulter. Donc ça, c'est les temps de mer, comment on peut rendre soutenable, en fait, hein, l'insoutenable. Donc vous avez les fleurs en rose, la nature qui a repoussé droit, bon, ils ont peut-être été génétiquement modifiés ceux-là, mais on ne sait pas. L'usager, c'est le planchiste là, qui passe tranquille, l'éolien qui marque quand même le verdissement de l'industrie lourde, en l'occurrence de la pétrochimie.
Super.
Et voilà. Merci, j'étais un peu long, mais c'est...
Merci. Ah,
super.
Bien, donc très bavard ce matin, donc du coup...
j'ai fait comme
on a... j'ai dit vous en tous. Donc du coup, le temps du débat va être un petit peu compté, donc il va falloir être hyper performant. Donc on va peut-être demander...